BPM, élection municipale 2020.
Bonjour et bienvenue sur BPM. Si vous venez de nous rejoindre, le deuxième tour des élections municipales aura lieu dimanche. À cette occasion, BPM vous propose jusqu'à vendredi des émissions spéciales. Les candidats des villes de Limay et Mantes-la-Ville viennent répondre à nos questions à 8h30 le matin. Aujourd'hui, demain et mercredi, c'est Limay. Justement, nous accueillons ce matin le maire sortant, Éric Rouleau. Éric Rouleau, bonjour.
Bonjour BPM.
Alors vous êtes né en 1957 à Mantes-la-Jolie, vous êtes maire de Limay depuis 2010 et vous vous représentez donc en 2020 avec la liste Limay avance pour et avec vous. Alors on rappelle les scores du premier tour, vous-même Éric Rouleau, vous êtes arrivé en tête des scrutins avec 33,30% des voix. Deuxième, Cécile Dumoulin avec 29,38% des voix. Michaël Boutry, troisième avec 26,31% des voix. Et Sébastien Duprat arrive quatrième avec 11,101%. Alors Éric Rouleau, vous attendiez-vous à ce score ?
Déjà on est content d'être arrivé en tête de ce premier tour des élections municipales. L'élément majeur, je pense, c'est le contexte dans lequel se sont déroulées ces élections, avec un taux d'abstention relativement important, puisque sur Limay, il y a eu 40% de citoyens et de citoyennes qui ont participé à ce premier tour, et 60% se sont abstenus.
Alors si c'était vous qui étiez aux commandes, vous les auriez faites ces élections au premier tour ou pas ?
Écoutez... Le sujet est compliqué. Moi, je respecte ce qui a été in fine décidé parce que il fallait en finir et pouvoir installer les conseils municipaux pour poursuivre la mise en œuvre du projet. Parce que tant que ce second tour n'avait pas lieu, eh bien, les projets restaient bloqués, le conseil n'était pas installé. Et je pense que pour la démocratie, c'est un problème.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on rappelle que ce sont les maires sortants qui sont toujours maires. Sauf ceux qui ont été élus au premier tour. Justement, l'entre-deux tours a été témoin de fusion de listes, Cécile Dumoulin et Sébastien Duprat, sous la bannière Limay demain 2020. Ce rapprochement vous inquiète-t-il ?
Parce que disons que ça a créé du remous dans tous les camps. Je veux dire que tant dans le camp de Duprat que dans le camp de Dumoulin, ça a généré énormément de mécontentement. La preuve, c'est que la liste de Duprat a explosé. Et puis ceux qui sont sortis de sa liste, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sur la liste à Cécile Dumoulin, ont créé un collectif, ils se sont organisés pour pouvoir s'exprimer afin de critiquer la façon dont Duprat a agi, c'est-à-dire de fusionner avec celle qui critiquait, c'est-à-dire Madame Dumoulin, dans la perspective du deuxième tour, uniquement pour avoir les places, les postes, etc.
Alors, vous, d'ailleurs, vous avez contacté Michaël Boutry pour faire l'union des forces de toute la gauche. Michaël Boutry a refusé votre proposition de fusion de liste. Pourquoi, à votre avis ?
Alors, Michaël Boutry, il est arrivé troisième au second tour. Il s'était déjà pris une grosse claque à l'occasion de la primaire du Parti communiste où il a recueilli 20% des voix et moi 80%. Donc, il aurait été sage de sa part de soit démissionner, soit accepter la main tendue du maire de Limay, puisque le soir même des élections municipales, je lui ai proposé une rencontre pour qu'on puisse discuter, bien sûr, du projet, mais là, je pense qu'il n'y avait pas trop de problèmes entre nous, et également de la liste pour porter ce projet. Et malheureusement, je le regrette, c'est une situation irresponsable de sa part, il a refusé et il a décidé de se maintenir avec tous les risques de division que ça peut générer.
Alors le deuxième tour, on l'a dit, ça a lieu dimanche. Selon vous, dimanche, les conditions sanitaires sont-elles appropriées ?
À Limay, oui. On va vraiment faire ce qu'il faut pour limiter un maximum les risques. On est en train de réfléchir, y compris pour modifier l'organisation des bureaux de vote afin d'éviter que les gens se croisent. On va bien sûr rendre obligatoire le port du masque. Les gels de désinfection seront posés sur les tables et puis on va limiter le nombre de personnes dans les bureaux de vote. Voilà, donc tout le monde peut être rassuré et j'appelle les Limayennes et les Limayens à se mobiliser pour que la démocratie puisse véritablement s'exprimer.
Alors plus globalement, on va revenir un petit peu sur cette crise. Il y a deux mois, je vous recevais pour le premier tour des élections. Enfin, il y a plus de deux mois maintenant, il y a presque trois mois. Il y a eu la crise du Covid. À votre avis, comment cette crise a été gérée par l'État ? Est-ce qu'elle a été bien gérée ? Est-ce qu'elle a été mal gérée ? Comment ça s'est passé, même pour vous en tant que maire ?
Bah, disons que les maires, comme d'habitude, ont eu à supporter la plupart des décisions prises par le gouvernement. Ça a été, une occasion de vérifier que la démarche mise en œuvre par le gouvernement quand on est en crise sanitaire, c'est effectivement de transférer la charge de travail, les coûts financiers aux communes. Donc ça, c'est pas nouveau, je veux dire. Ça devient habituel que le gouvernement décide de transférer un certain nombre de choses aux communes, et les communes ont à financer les décisions prises par l'État. Alors à Limay, on a fait les choses bien, il faut le dire. On est aujourd'hui à 70 000 masques distribués, et ces masques ont été distribués par des volontaires, des militants associatifs, les élus, les militants politiques, qui, dans le cadre d'une démarche de solidarité, ont décidé d'aller porter des masques dans les boîtes aux lettres des Limayens. Il faut savoir qu'il y a 6500 boîtes aux lettres et que ce travail solidaire a nécessité beaucoup, beaucoup d'engagement.
Et alors, ils ont été distribués à partir de quand, ces masques, à peu près ?
Eh bien, dès qu'on est rentré en confinement, c'est-à-dire tout de suite après le premier tour des élections municipales, dès qu'il y a eu les consignes d'État de rentrer en confinement, eh bien, nous avons organisé la solidarité par la mise en place d'un numéro unique. Il y a eu 2000 appels que nous avons traités, par le dépôt de masques au domicile, par la mise en place du portage à domicile pour les repas de midi. On a augmenté de 40% par rapport à ce qui existait auparavant. Et puis moi, pour ma part, j'ai également été soutenir les agents qui étaient mobilisés pour assurer la continuité du service public. Donc j'ai été un maire, confiné à 50%, parce que il y avait aussi le soutien à apporter au personnel qui, au quotidien, luttait contre le virus.
Alors, aujourd'hui, c'est la rentrée totale dans les crèches, les écoles et les collèges. Maintenant, c'est devenu obligatoire. On va parler des écoles et de cette crise. Vous avez attendu le 2 juin avant de réouvrir les écoles. Le 5 juin, pardon. Le 5 juin, pourquoi avoir pris cette décision ?
Eh bien, parce que le 11 mai, les conditions sanitaires n'étaient pas réunies. On était en rouge. Et moi, j'ai considéré, avec d'autres maires, j'ai signé une tribune qui a été envoyée au président de la République avec 300 maires, on a considéré que effectivement les conditions sanitaires n'étaient pas réunies et qu'il fallait prendre son temps école par école pour écrire les protocoles de reprise. Donc ça a été plébiscité par les parents d'élèves, y compris par les directeurs d'école, qui dans le coup avaient plus de temps pour préparer les choses.
Et alors cette rentrée aujourd'hui, elle a été bien préparée ?
Oui, alors bien sûr, le temps était court également, mais le travail a été réalisé entre les directions de service, les élus, et puis les directeurs d'école, l'inspection d'académie. Nous avons effectivement mis en œuvre un certain nombre d'actions respectueuses du protocole allégé que nous avons reçu mercredi.
Ça a un coût, cette crise, pour les communes ? Ils vont récupérer l'argent comment ?
Bah écoutez, bien sûr que ça coûte, parce que il y a l'achat des masques, il y a l'achat des plexiglas, il y a l'achat du gel, il y a le personnel qu'il faut payer. Je vous disais tout à l'heure que on a embauché 5 femmes de ménage au total pour assurer les conditions fixées par le protocole. C'est-à-dire que dans les écoles à Limay, il y avait une femme de ménage à plein temps, enfin de 9h à 15h, pour faire le nettoyage nécessaire, les toilettes, les rampes, les clanches de porte, etc. Donc ça coûte forcément. Et pour l'instant, on a des engagements de l'État sur le remboursement, mais pour l'instant, on n'a rien venu venir. Et comme d'habitude, je crois, je pense, peut-être je me trompe et j'espère que je me trompe, que ça va encore être les communes qui supportent financièrement la responsabilité de décisions prises en haut de l'État.
Alors pendant cette crise, on a parlé aussi d'économie, on va revenir dans le Mantois ou un petit peu plus loin à Flins. On sait que Renault projette d'arrêter l'assemblage de véhicules à l'usine Flins à compter de 2024 pour y transférer plusieurs autres activités. Ce projet pourrait se traduire par la diminution de 1000 salariés, on passe de 2006 à 1600. Une autre voie est-il possible selon vous ?
Bah, j'ai réagi immédiatement dès l'annonce, puisque 1000 emplois en moins dans ce bassin de vie, c'est la catastrophe. Et il faut effectivement réfléchir pour trouver avec l'industriel, mais également avec les élus, pour arriver à trouver des solutions pour faire en sorte que ces 1000 emplois soient compensés. Je pense que ce que les organisations syndicales portent, l'idée d'une petite voiture populaire électrique, pourrait être un débouché intéressant pour Flins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le territoire du Mantois souffre du chômage. On a eu récemment la fermeture de la centrale de Porcheville.
Ça faisait combien d'emplois ?
250 emplois.
D'accord.
Il y a eu la démolition et l'arrêt de fonctionnement de l'usine d'incinération de Guerville. Et il y a eu, une fois de plus, la reprise de Dunlopilo par une entreprise qui a proposé dans son plan de relance eh bien, la suppression de la moitié des effectifs sur Dunlopilo. Donc voilà, nous sommes confrontés à cette crise économique qui se traduit par la fermeture d'entreprises. Moi, je pense que face à ça, il y a nécessité d'investir lourdement dans la formation hein, pour faire en sorte que notamment les jeunes du territoire puissent être formés au métier du futur. Et puis, il faut également que les élus prennent leurs responsabilités. Hein. J'ai participé à quelques débats contradictoires avec mes concurrents. Tout le monde dit qu'on fait pas assez à l'IMET sur l'emploi. Mais enfin, il faut arrêter de dire ça. C'est l'IMET aujourd'hui qui porte l'industrie dans le Mantois avec 4000 emplois industriels dans le port et dans les deux zones industrielles. Donc arrêtons de critiquer l'IMET sur l'emploi. Faisons en sorte plutôt que l'emploi se développe. Soutenons les projets d'extension, c'est-à-dire les 30 hectares d'extension du port et les 30 hectares d'expansion de la zone des hauts reposoirs.
Alors, en tant que membre du Parti communiste, qu'est-ce que vous pensez des entreprises ? Je pense à Renault hein, et Air France. On leur donne 5 milliards ou des milliards, on les subventionne, hein, l'État les subventionne, et de l'autre côté, ils nous disent « bon, bah, on va licencier tant de milliers de personnes ».
Bah, c'est 500 milliards au total que le gouvernement a décidé d'injecter dans les entreprises en difficulté. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Je pense que l'État, y compris les institutions de la République, peuvent participer à la relance économique. La seule question et la seule exigence que je pose à ça, c'est le contrôle. C'est-à-dire que l'argent qui arrive dans les caisses des entreprises ne doit pas permettre de servir les actionnaires, les exigences des actionnaires, mais bien de servir le développement et le maintien de l'activité de ces entreprises. Et pour ceux qui ne remplissent pas ce rôle, je propose que ça soit remboursé. C'est-à-dire que c'est de l'argent public. Donc il faut impérativement organiser les contrôles nécessaires pour vérifier que cet argent public versé aux entreprises pour la relance soit utilisé à bon escient.
Alors l'actualité de ces derniers mois également à l'IMET a été marquée par des incendies survenus à l'usine de GDE. Vous avez alors demandé une suspension de l'activité de l'usine afin de déterminer les transformations à réaliser. Est-ce que vous avez été entendu ?
Alors GDE, c'est une grande histoire.
Ah oui, ça fait longtemps. Hein.
Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps.
Moi, quand j'ai été élu maire en 2010, j'avais une manifestation de riverains sur le parvis de la mairie. Riverains que j'ai bien évidemment reçu et soutenu leur association pour les actions menées. Des actions d'ailleurs qui ont contribué à 4 arrêtés complémentaires d'exploitation pour faire en sorte de limiter les pollutions. Donc ça allait beaucoup mieux et là ça reprend probablement parce qu'il y a eu une période de laxisme de cette entreprise avec la crise Mais il y a eu deux déclenchements d'incendie,
oui.
Avec des pollutions forcément, et j'ai demandé une suspension d'activité pour mettre tout à plat avec la DRIER, avec l'État, avec l'entreprise, pour revoir les process industriels, les process de production, pour faire en sorte que ces explosions, ces incendies n'arrivent plus.
Alors, on va revenir sur votre programme. Il nous reste 5-6 minutes. Le premier chapitre, justement, on va parler écologie. Quelles sont vos solutions pour s'inscrire dans le développement durable ?
Alors déjà, bon, j'étais vice-président chargé du développement durable au niveau de GPSO. On a voté à l'unanimité le PCAET, hein, le plan climat, air, énergie territorial. Je pense que ça constitue une bonne base pour que les communes soient dans l'action par rapport à l'urgence, la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de rétablir la biodiversité.
Ça a été un sujet qu'on abordait régulièrement, hein, quand même, l'écologie, le changement de vie pendant cette crise.
Oui, alors bon, on a des projets précis, hein, par exemple, projet symbolique de planter 3000 arbres. Hein, il y a 3000 enfants à Limay, on veut planter un arbre par enfant. Également, l'isolation des bâtiments publics, hein, c'est-à-dire des bâtiments communaux, mais également les résidences sociales dans le cadre des plans ANRU. Hein, l'ANRU, c'est l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Toutes ces programmations, ces restructurations, c'est la nécessité d'isoler les bâtiments, participent de l'amélioration du rendement énergétique et va dans le sens de ce qu'on souhaite.
Mais justement, on va parler d'architecture, puisqu'on va parler du centre-ville.
Sur les questions de développement durable, il y a également beaucoup de travail à réaliser à la restauration collective, hein, pour limiter la consommation de viande, pour aller vers le 100% bio, et puis pour servir des repas végétaux au niveau de la restauration collective.
Alors, on va parler du centre-ville maintenant. Vous avez un projet architectural paysager moderne avec de l'immobilier sans ciment.
Oui, alors là aussi, il faudra végétaliser. Hein. C'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. On a engagé la concertation avec les commerçants, mais également avec les citoyens. Il y a eu plusieurs réunions de concertation. Cette concertation a permis de revoir les engagements de la ville en termes de logement. On était sur 340, on est descendu à 250. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est un projet d'embellissement et un projet pour que l'IMAI gagne en attractivité. Hein, aujourd'hui, on a un centre-ville qui est dans le déclin. Il y a des coques qui ferment. Il y a une dégradation importante de l'espace public. Donc c'est ça qu'on veut faire prioritairement, c'est-à-dire rendre la ville et le centre-ville plus joli, et puis procéder à une requalification totale des trottoirs, de la voirie, de l'éclairage public. Il y a un projet, y compris qui va partir tout de suite après les élections, de requalification de la rue nationale, avec la pose de nouveaux candélabres, hein, parce que la rue nationale, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est pas jolie et qu'il y a nécessité de travailler sur son embellissement rapidement.
Allez, dernier sujet, l'éducation. Vous voulez la construction d'un nouveau groupe scolaire.
Oui,
pour vous, c'est nécessaire.
Dans le mandat 2014-2020, on a construit un groupe scolaire de 15 classes, le groupe scolaire Maurice Quétier. Donc ça a permis d'améliorer la sécurité des enfants qui auparavant étaient obligés de traverser la rue nationale pour aller à l'école. Donc ça, c'est une bonne chose. On a également fait une extension de l'école Kergomar, hein, pour enlever les modulaires qui avaient été mis en place il y a quelques années. Et puis, on a un projet également de restructuration et d'extension de l'école Vallon. Voilà. Et puis, il y a le projet emblématique, hein, du prochain mandat, c'est la déconstruction, reconstruction d'un des groupes scolaires de Jean Masset, Jean Zay, pour faire en sorte que cette école soit aux normes, participe à l'effort sur l'environnement, et puis permette d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions.
Dernière question, Éric Rouleau. La passerelle entre Mantes et Limay, ça serait pour quand ?
Alors, à chaque fois, le calendrier glisse parce que, visiblement, il y a eu des problèmes avec les entreprises qui avaient été désignées. J'espère, et je vais à nouveau, dès début juillet, interpeller les PAMSA pour que les travaux d'implantation d'une passerelle sur le vieux pont de Limay, que les travaux puissent reprendre et que les délais puissent être tenus, hein, puisqu'il y a 20 mois de travaux sur ce vieux pont, des travaux de rénovation, de consolidation, et voilà, donc il faut des entreprises spécialisées, et je fais confiance à EPAMSA pour être en capacité dès début juillet de reprendre ces travaux et d'achever ce beau projet qui permettra de réunir les rives de la Seine sur Limay avec les rives de la Seine sur Mantes-la-Jolie.
Éric Rouleau, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, BPM.
Cette émission sera rediffusée à midi et à 18h. Demain, à 8h30, nous recevrons Brahim Saïk, membre de la liste du Nouveau Souffle pour Limay, porté par Michaël Boutry. Excellente journée à l'écoute de BPM.
BPM, élection municipale 2020.